إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on commence aujourd'hui le cours 67 dans la lecture du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui s'intitule Iqtida Sirat al-Mustaqim Mukhalafatu Ashab al-Jahim. Et c'est on lit la version, ou bien plutôt les commentaires, la version qui est avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan. Donc on est aujourd'hui au volume 2, on commence le volume 2, page 502, et c'est le point numéro 7. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il continue à parler toujours de l'interdiction d'imiter les juifs et les chrétiens dans leur extrémisme dans la religion, et il donne des exemples. On a mentionné au dernier cours l'explication du verset dans sourate al-Hadid, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا. Et là, on continue sur la même ligne pour expliquer comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment être modéré, comment s'écarter de l'exagération, de l'extrémisme dans la religion, dans l'adoration, dans les croyances, dans les pratiques, et comment l'islam est en fait la religion de l'équilibre et de la modération, et c'est une religion qui condamne et qui interdit de toutes les sous toutes ses formes l'extrémisme. Et l'islam ne tolère l'extrémisme et l'exagération dans la religion sous aucune de ses formes. Et ça, c'est quelque chose qui surprend probablement beaucoup de gens, en particulier les koufars, les gens qui n'y sont pas musulmans sont étonnés d'entendre ça probablement, mais pourtant c'est la vérité. L'islam, c'est une religion qui condamne l'extrémisme et l'exagération. S'il y a des gens parmi les musulmans qui font des choses extrêmes ou qui pratiquent des choses extrémistes ou qui sont des extrémistes dans la religion, que ce soit extrême dans le sens d'exagérer ou l'extrême dans le sens d'avoir des manquements et d'être laxiste, dans les deux sens, eh bien le blâme et le mal dans ça ne revient pas à l'islam lui-même, la religion, parce que la religion est innocente de l'extrémisme. Mais le blâme dans ces cas-là revient aux musulmans qui ont transgressé et qui sont tombés dans l'exagération et dans l'extrémisme. On ne doit pas blâmer la religion de l'islam pour les erreurs ou les égarements des individus qui ont pratiqué l'extrémisme, parce que la religion elle-même a interdit l'extrémisme. Et donc, Ayant dit ça, on continue maintenant avec les exemples que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a mentionné dans le livre. Il dit: وَقَدْ صَرَّحَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فِي مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُودِ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدٍ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي الْعَمْيَاءِ أَنَّ سَهْلَ ابْنَ أَبِي أُمَامَةَ حَدَّثَ أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هذا الذي في رواية اللؤلؤي عن أبي داود وفي رواية ابن داسة عنه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة المسافر أو قريب منها فلما سلم قال يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته قال إنها للمكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فشدد الله عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ثم غدا من الغد فقال ألا تركب وننظر لنعتبر قال نعم فركبا جميعا فإذا بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها قال أتعرف هذه الديار؟ قال ما أعرفني بها وبأهلها هؤلاء أهل ديار أهلكهم الله ببغيهم وحسدهم إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. Donc on va traduire qu'est-ce qu'on a mentionné jusqu'à maintenant. C'était en fait il dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné cela explicitement. C'est-à-dire qu'est-ce qui a rapport avec l'interdiction d'imiter les juifs et les chrétiens dans leur extrémisme et dans leur exagération dans la religion. Et il dit que ça a été rapporté selon Abu Daoud dans son Sunan, selon Ibn Wahb, selon Saïd ibn Abd al-Rahman ibn Abi al-Umya, selon Sahl ibn Abi Umama, qui lui a mentionné qu'il est rentré, lui ainsi que son père, chez Anas ibn Malik à Médine. Alors il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait, ne soyez pas durs avec vous-même, parce que la religion deviendra dure pour vous. C'est-à-dire, si vous êtes trop durs avec vous-même, eh bien, ça va devenir plus dur pour vous de pratiquer la religion. Et il y a des gens qui ont été durs avec eux-mêmes, alors Allah subhanahu wa ta'ala a été dur avec eux, et voilà le reste de ceux-là, de ces gens-là, dans les monastères, et dans les couvents et les monastères. Et il a mentionné le verset « وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ » c'est-à-dire le monachisme qu'ils ont innové, la bid'a du monachisme qu'ils ont inventé, nous ne leur avions pas prescrit. Et ici, il explique en fait que c'est le fait d'avoir dans la religion chrétienne des monastères avec des moines, des moines et des religieuses, des sœurs qui s'enferment dans des couvents, dans des monastères juste pour adorer ou pour prier. Et ça, c'est une forme d'extrémisme et d'exagération. C'est Sourate Al-Hadid et c'est les versets, je crois, si je ne me trompe pas, c'était 24-25 dans Sourate Al-Hadid. Al-Hadid, c'est le fer. Donc, ça c'est qu'est-ce qui a été dit à ce sujet. Il y a une autre narration de ce même ce hadith là, et c'est, par contre, il y a quelque chose de plus qui est mentionné, quelque chose de comme si c'est la suite de l'histoire. C'est que tous les deux ils sont allés voir Anas ibn Malik à Médine, et c'était à l'époque de Omar ibn Abdul Aziz, et il était le maire de Médine, le dirigeant de Médine à l'époque. Et il a prié une prière très légère, une prière très légère, très courte. Et ils ont dit, comme si c'était la prière d'un voyageur, ou quelque chose de semblable, de proche à ça. Alors lorsqu'il a fait le taslim, c'est-à-dire salamu alaykum, termine sa salat, les deux ont dit que Allah te fasse miséricorde. Et quand je dis les deux ici, c'est Sahal ibn Abi Umama et son père. Donc ils ont dit tous les deux que Allah te fasse miséricorde. Cette prière que tu faisais, est-ce que c'était une prière obligatoire ou une prière que tu faisais surérogatoire? Il disait non, c'était une prière obligatoire. Et il dit, et c'était la prière que priait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En voulant dire que c'était une prière qui était légère, qui était courte. C'est-à-dire, j'ai pas fait cette prière trop longue et trop lourde, mais c'est une prière, légère. Et il dit, c'est de cette façon-là que priait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne soyez pas trop durs avec vous-même, parce que Allah subhanahu wa ta'ala rendra les choses dures pour vous sinon. Et il y a des gens avant vous qui ont rendu la religion trop dure pour eux-mêmes, et Allah subhanahu wa ta'ala a été dur envers eux. Et voilà le reste de ces gens-là qui sont dans les monastères et dans les couvent et des choses comme ça. Et c'est le monachisme qu'ils ont innové, et on ne leur avait pas prescrit, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne leur avait pas prescrit de faire ça. Puis le lendemain, ils ont dit, venez pour qu'on puisse monter sur nos montures et aller voir certains restes de villes, ou bien aller méditer, réfléchir ensemble sur justement des villes qui ont été abandonnées et des choses de ce genre. Alors ils ont dit d'accord, allons-y. Alors ils ont tous monté sur leur cheval ou leur chameau ou leur âne, selon l'animal qu'ils avaient, et ils sont arrivés vers des maisons, une ville ou un endroit où il n'y avait plus personne qui habitait là-bas. C'était que des maisons abandonnées. Les habitants de cette ville-là étaient tous morts. Tout le monde était disparu. Il n'y avait plus personne. Alors, ils ont dit, est-ce que tu connais ces demeures? Il a dit, je ne les connais pas, ni les habitants. Mais ce sont des demeures de gens que Allah a fait périr à cause de leur transgression et de leur jalousie. Et il a dit que la jalousie éteint la lumière des bonnes œuvres, et également la transgression. C'est ça qui va faire, qui va confirmer cela ou démentir cette jalousie-là. Parce que la jalousie, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Mais qu'est-ce qui est la manifestation de cette jalousie? c'est la transgression qui suit par la suite. Donc si la personne qui est jalouse, elle fait de la transgression, c'est ça ce qui va confirmer la jalousie. Et si elle s'abstient et elle se retient, eh bien ça démentit, ça vient démentir que cette personne-là a de la jalousie. Et il dit que également, de la même manière que l'œil fait le zina, et la main, et le pied, et le corps, et la langue. Mais qu'est-ce qui confirme le reste? C'est les parties intimes. C'est ça qui va confirmer ou qui va démentir qu'est-ce qui a été fait par les autres membres, comme zina. Après, il dit, Cheikh al-Islam, il continue, il mentionne d'autres exemples, il dit, فَأَمَّا سَهْلِ بْنُ أَبِي أُمَامَةَ فَقَدْ وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينَ وَغَيْرُهُ روى له مسلم وغيره وأما ابن أبي العمية فمن أهل بيت المقدس ما أعرف حاله لكن رواية أبي داود للحديث وسكوته عنه يقتضي أنه حسن عنده وله شواهد في الصحيح أما ما فيه من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف ففي الصحيحين عنه أعني أنس بن مالك رضي الله عنه ما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجز الصلاة ويكملها. Donc il dit que en ce qui concerne dans ce hadith la narration de Sahl ibn Abi Umama, eh bien il a été déclaré thiqa, fiable, selon Yahya ibn Ma'in et d'autres. Et Yahya ibn Ma'in, c'est un parmi les ulama de hadith, parmi les grands ulama de hadith. Et Muslim et d'autres également ont rapporté des hadiths de lui. Et il mentionne ça pourquoi? Ibn Taymiyyah, il mentionne ça pour l'authentification du hadith. Après, il dit, en ce qui concerne Ibn Abi al-Umya, il fait partie des gens de Baytul Maqdis, c'est-à-dire de la Palestine. Il dit, je ne connais pas son état, mais le fait que Abu Daoud a rapporté le hadith et s'est tu, yani sur le degré du hadith, en principe, ça implique que le hadith est hasan pour lui. Et il y a d'autres narrations dans As-Sahih qui témoignent de ce hadith-là. En ce qui concerne la description dans ce hadith de la part de Anas ibn Malik, qui décrit la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme étant légère, eh bien ça c'est rapporté également dans Al-Bukhari et Muslim. Selon Anas radiyallahu anhu, il dit que la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle était courte, mais elle était parfaite. Elle était courte, mais parfaite. Maintenant, Cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires sur les narrations qu'on a lues. Et on va lire ensemble les explications de Cheikh Al-Fawzan. Donc, il dit « هذه نموذج من التسهيل وقوله كان صلى الله عليه وسلم يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الغلو والتشدد فإن التشدد يفضي إلى محاذير منها أن صاحبه ينقطع عن العمل ولا يستمر ومنها أن الشيطان يتسلط عليه إذا فارق جماعة المسلمين وينعزل عنهم في الديارات والصوامع وما أشبه ذلك والإسلام دائما يدعو إلى الاجتماع والجماعة ومخالطة الناس والصبر على أذاهم فالانعزال عن جماعة المسلمين كله محذير وشر. Donc on va traduire ça. Le Cheikh Al-Fawzan il explique que ici il y a quelques exemples qui sont mentionnés dans ces narrations là au sujet de la facilité de la religion, et que dans la religion, elle est facile. Allah, il a rendu la religion facile, hein, pour nous. Et il mentionne donc que, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ne soyez pas trop dur avec vous-même, parce que Allah rendra la religion plus dure pour vous. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il nous avertit, et il avertit la Ummah en général, de l'extrémisme et de l'exagération. Parce que l'exagération dans la religion et le fait d'être trop dur, ça ramène beaucoup de choses mauvaises et des choses interdites. Parce que, yani, parmi les exemples des conséquences de l'extrémisme et de l'exagération, c'est que la personne, elle va pas être constante dans ses actions. Elle va commencer, puis après elle va cesser. Elle va s'arrêter, elle va couper. Pourquoi? Parce que elle fait trop d'un seul coup. Et après elle s'épuise, elle se fatigue, et puis elle est plus capable de suivre par la suite. Donc c'est comme on a expliqué au dernier cours, c'est mieux de faire peu, hein, qu'est-ce qui est obligatoire, et de le faire constamment, que de faire beaucoup d'un seul coup, puis après de s'arrêter. Donc, la personne qui est extrémiste, elle fait beaucoup, mais elle n'est pas constante. Et ça, c'est pas bon. Et parmi les conséquences également négatives du fait d'être dans l'extrémisme, il y a que le shaitan, il va prendre le dessus sur toi et va faire par la suite que tu te sépares du corps des musulmans et que tu t'écartes dans des maisons, dans des monastères, hein. Par exemple, dans l'islam, on a expliqué qu'il n'y a pas de moines, il n'y a pas de religieuses ou des trucs de ce genre, hein, parce que dans l'islam, tout le monde est religieux. Il n'y a pas des gens qui sont religieux et d'autres qui ne sont pas religieux. En principe, tout le monde a les mêmes devoirs et les mêmes obligations par rapport à l'islam, peu importe qu'ils soient des imams ou des religieux ou des gens de la vie, des gens qui font un travail ordinaire. Ils doivent tous faire la salat, faire le jeûne, faire le hajj, faire la zakat et adorer Allah, faire le dhikr, réciter le Coran et ainsi de suite. Mais bien entendu, il y a des degrés de gens qui sont plus pieux, qui ont plus de foi, qui étudient la science, qui ont plus de ilm. Ça, c'est normal. Mais la base, elle est toujours, hein, que l'obligation d'adorer Allah et d'établir les principe de l'islam, ça c'est obligatoire pour tout le monde. Et il y a des connaissances que tout le monde doit avoir et connaître sans exception, comme le tawhid et les règles de base de l'adoration et ainsi de suite. Mais par contre, yani, dans le christianisme, comme on a expliqué au dernier cours, yani, c'est sûr qu'il y a une catégorie des gens qui s'isolent dans des monastères, dans des endroits comme ça, et eux ils pensent qu'ils font quelque chose de bien, alors qu'en réalité, c'est une innovation, même dans leur religion à eux. Parmi les musulmans, il y en a qui sont tombés dans cet égarement-là, parmi ceux qu'on appelle as-soufiyya. Et ils se sont inventés des sortes de monastères à eux aussi. C'est-à-dire, on n'appelle pas ça monastère, mais ils leur donnent d'autres noms, comme par exemple az-zawaya, hein, zawiya. Zawiya, c'est le singulier, zawaya, c'est le pluriel. Yani, c'est des endroits où ils se réunissent pour yani, faire leur bid'a. Et à la base, bon, ils avaient établi, certains ont établi ça comme étant des écoles ou bien des lieux d'enseignement, mais après c'est devenu des lieux d'innovation et des choses de ce genre. Et il y a aussi d'autres termes qui sont employés pour décrire ces endroits-là. Mais c'est, yani, en général, les endroits des soufis, hein, c'est comme ça qu'ils les appellent. Et donc, ils s'écartent comme ça de la vie. Des fois, tu vois que ces lieux-là sont dans des endroits isolés, des endroits qui sont loin de la ville, comme par exemple des endroits dans la montagne ou des endroits dans des endroits que, yani, les gens vivent pas là-bas. C'est des endroits isolés. Donc ça, c'est des exemples. Ils veulent s'adonner juste à l'adoration, pas être mélangés avec personne. Et ça, c'est dangereux, comme le cheikh il dit. Ça fait que des gens s'écartent de la jama'a et, yani, l'islam appelle les musulmans à rester unis. et à rester en groupe, à rester toujours ensemble, à rester comme un seul corps, et à côtoyer les gens, à se mélanger avec les gens, et à être patient hein, vis-à-vis des gens, et de ne pas s'écarter des gens, ou d'être à l'écart des gens, de rester tout seul, hein, s'écarter de la jama'a des musulmans. Tout ça, c'est des choses mauvaises, c'est des choses de mal. Hein? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, celui qui se mélange avec, là je dis la signification seulement, celui qui se mélange avec les gens et qui endure leur mal, il est meilleur que celui qui se mélange pas avec les gens et qui n'endure pas leur mal. Donc, il y a cette tendance, des fois, parmi certains musulmans, hein, qui, lorsqu'ils prétendent vouloir pratiquer l'islam ou lorsqu'ils commencent à pratiquer l'islam, ils restent toujours dans leur coin tout seuls, hein, alors qu'ils savent qu'il y a des frères qui font des efforts parfois pour apprendre l'islam, étudier la religion ensemble. Eux, ils se disent non, moi je ne veux pas être avec les gens parce que si je suis avec les gens, ils vont m'embêter ou bien ils vont me distraire ou ils vont m'écarter de qu'est-ce qui est plus bénéfique ou des choses de ce genre. Et donc, alors, à cause de ça, eh ben, ils s'écartent et ils restent tout seuls. Hein? Et tu les vois toujours assis dans un coin tout seuls, ils récitent le Coran ou ils lisent dans un livre et ils ne se mélangent pas avec les autres musulmans. Et ça, c'est dangereux. Hein? Quand tu vois des gens comme ça, c'est souvent des gens qui, par la suite, tombent dans l'égarement. Hein, parce qu'ils commencent parfois à se penser meilleurs que les autres, puis parfois aussi le shaitan leur monte à la tête, leur vient à la tête et commence à leur souffler des idées qui sont fausses. Et souvent, des fois aussi, ces gens-là, étant donné qu'ils s'écartent des ulama aussi, eh bien le résultat, c'est qu'ils tombent parfois dans des formes d'extrémisme dans la compréhension de l'islam parce qu'ils ne prennent pas leur science des ulama avec les ulama, mais ils prennent des livres et ils apprennent par eux-mêmes tout seuls, et parfois ils comprennent les choses à leur propre façon. Ils lisent le Coran, ils comprennent à leur façon, ils lisent les hadiths, ils comprennent à leur façon, et ils tombent dans l'extrémisme à cause de ça. Allah musta'an. Donc quand vous voyez des gens qui restent toujours seuls comme ça, qui, lorsqu'il y a des douros par exemple, tu les vois jamais assister, ils viennent jamais apprendre, ils font jamais des efforts, puis ils sont toujours tout seuls dans leur coin en train de faire leurs propres affaires, eh bien ça, il faut faire attention à des gens comme ça. Il faut leur donner la nasiha de rester avec les musulmans et de ne pas s'écarter, de ne pas rester tout seul à l'écart. Le cheikh il dit ensuite: ولهذا الإسلام شرع لنا الاجتماعات في العبادات كالصلوات الخمس في المساجد وفي الجمعة وهي أكبر الاجتماعات في كل أسبوع وفي العيدين في الحج التي هي من أكبر اجتماعات المسلمين فديننا دين الاجتماع وليس دين التفرق والتشتت. Donc le cheikh il dit que c'est pour cette raison-là que l'islam a légiféré des adorations de groupe, des adorations qu'on fait en groupe, comme par exemple les cinq prières dans la mosquée, et également al-jumu'ah, hein, la prière du vendredi, et ça c'est le plus grand rassemblement hebdomadaire, hein, et également la prière des deux Eid. Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, c'est des adorations de groupe, hein? Al-Hajj, ça c'est la plus grand rassemblement des musulmans dans le monde chaque année. Fadiluna dinu l'ijtima, donc notre religion c'est la religion de l'unification et du rassemblement et de l'unité. Walaysa dinu at-tafarruq wa at-tashattut, c'est-à-dire c'est pas une religion de division et il y en a de chacun restant dans son côté ou de se diviser ou des choses de ce genre. Après, le Cheikh dit وَمِنْ مَفَاسِدِ التَّشْدِيدِ أَيْضًا أَنَّ مَنْ شَدَّدَ شَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ عُقُوبَةً لَهُ وَلِهَذَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا فَالْمُسْلِمْ مُعْتَدِلْ لَا يَتَشَدَّدْ وَلَا يَتَسَاهَلْ فَلَا إِفْرَاطْ وَلَا تَفْرِيطْ وَقَدْ بَيَّنَ الْقُرْآنَ لَنَا نَمُوذَجًا من الذين شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم لا سيما اليهود حينما أمرهم الله بأن يذبحوا بقرة فشددوا على أنفسهم في أسئلتهم وما هي ما يعني ما هي ما لونها يعني ما هي ما لونها حتى شدد الله عليهم وحتى ضاقت عليهم البقر فقالوا إن البقر تشابه علينا لماذا تشابه عليهم لأنهم شددوا على أنفسهم ولو أنهم جاءوا إلى أي بقرة فذبحوها لقضي الأمر ولكن شددوا في تعيينها وفي النهاية ذبحوها وما كادوا يفعلون فمن شدد شدد الله عليه. Donc le Cheikh explique que parmi les conséquences également négatives du fait d'être trop dur dans la religion ou d'exagérer dans la religion, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala va faire preuve de dureté envers celui qui est dur dans la religion par punition pour lui. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith rapporté par Aisha radiyallahu anha dans Al-Bukhari et Muslim, سددوا وقاربوا سددوا وقاربوا c'est-à-dire سددوا c'est-à-dire soyez droit يعني mettez-vous droit sur la droiture وقاربوا قاربوا ça veut dire يعني si vous êtes pas capable d'être يعني sûr يعني correctement 100% mais au moins soyez le plus proche possible de qu'est-ce qui est bien et de qu'est-ce qui est bon. Qaribu, c'est-à-dire rapprochez-vous du le plus possible du bien et de la droiture. Saddid wa qarib. Ça, c'est une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Et le cheikh explique que le musulman, il est modéré. Le musulman, qui suit la voie des salafs, la compréhension du Coran et de la sunna selon la compréhension des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis, eh bien, il n'est pas extrémiste, il n'est pas non plus laxiste, il est dans le juste milieu, il est modéré. فَلَا إِفْرَاطْ وَلَا تَفْرِيطْ. Et là, quand on parle d'extrémisme ou d'exagération, c'est pas à la manière des kuffars, yani, comment eux ils comprennent ou comment eux ils pensent par rapport aux musulmans, selon leurs imaginations et leurs idées. Selon leurs principes. Tu les entends parfois dans les médias, à la télé, dans les journaux, dans les magazines, sur Internet. Ils parlent de l'islam pour faire vendre des journaux, pour faire vendre des magazines, pour augmenter leur cote d'écoute. C'est devenu le sujet de l'heure, l'islam. Ils ne peuvent pas même faire leur débat politique sans parler de l'islam. Toutes leurs histoires, maintenant, ils parlent de l'islam parce que c'est la seule chose qui est intéressante, que les gens veulent entendre. Personne ne veut entendre autre chose. Et ils ruminent toujours les mêmes histoires pendant des mois et des mois. Et donc, yani, subhanallah, ils parlent des musulmans qui sont soi-disant radicaux, ou bien qui sont extrémistes, ou bien qui sont intégristes. Ou islamistes. Comme j'ai dit au dernier cours, ils utilisent toutes sortes de mots et de termes et de noms, mais ils placent là-dedans, ils définissent les choses selon leurs termes, leurs principes et leur compréhension à eux. Tandis que selon l'islam, yani, être extrémiste, c'est pas la même chose que qu'est-ce que le chrétien ou juif ou athée considère comme étant un extrémiste. C'est-à-dire par exemple, un musulman, pour un chrétien ou pour un juif ou pour un athée, un laïc, un musulman qui prie 5 fois par jour, qui mange pas de porc, qui écoute pas la télévision, qui fait ses 5 prières, hein, qui s'abstient d'écouter de la musique, qui fréquente pas de femmes, qui boit pas d'alcool, qui sort pas, qui va pas dans des endroits où il y a des péchés, des choses de ce genre, pour eux, ça c'est un extrémiste. Alors que pour un musulman, ça c'est normal. C'est ça l'islam. Donc eux, ils déterminent l'extrême par rapport à qu'est-ce qui fait leur affaire à eux dans leur façon de vivre. Si tu vis pas comme eux, t'es un extrémiste. Hein? Alors que pour nous, les musulmans, l'extrémiste, c'est celui qui contredit le Coran et la Sunna, ou qui dépasse les ordres d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui interprète le Coran et la Sunna d'une façon qui contredit la compréhension des salafs salih. Nous, on va dire ça, c'est de l'extrémisme, oui. L'extrémisme des khawarij, l'extrémisme des rafida, l'extrémisme des soufiya, l'extrémisme des asha'ira, l'extrémisme de toutes les différentes sectes. Oui, ça c'est de l'extrémisme. L'extrémisme ou le laxisme aussi. Le laxisme de ceux qui négligent l'islam, qui ne pratiquent pas la religion comme il faut, comme les murji'a, les soufiya. Donc c'est comme ça. Nous, on détermine les choses par rapport au texte, par rapport aux preuves. Si quelque chose est ordonné par Allah et son messager, et qu'on le fait selon la compréhension des salafs et selon les ulama de l'islam, on dit ça c'est pas de l'extrémisme, c'est de la modération. Si une femme elle se couvre et se voile, elle porte le niqab, le djilbab, elle couvre ses mains avec des gants, nous on va pas dire ça c'est de l'extrémisme. Pourquoi? Parce que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient ça, et les femmes des sahaba elles faisaient ça, et donc c'est pour un musulman ça c'est de la modération. L'extrémisme, hein, ce serait par exemple de dépasser cet exemple là, tu vois, ou bien de faire preuve de laxisme aussi ça rentre dans l'extrémisme, parce que tu vas pas faire même le minimum de qu'est-ce qui est obligatoire, tu négliges. Donc ça c'est une forme d'extrémisme, mais dans l'autre sens, et les deux sont interdits dans l'islam. C'est pour ça que le cheikh il dit la ifrat ou la tafrit. La ifrat, c'est-à-dire tu vas pas faire d'exagération, voilà tafrit, tu vas pas faire preuve de laxisme. OK? Et le cheikh il dit que dans le Coran, il y a beaucoup d'exemples au sujet de ceux qui ont fait preuve d'extrémisme ou de dureté, hein, d'excès de dureté envers eux-mêmes dans la religion d'Allah, et à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu difficile pour eux la religion. Et en particulier les juifs. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, leur avait ordonné de sacrifier une vache, eh bien, ils ont rendu l'affaire pour eux-mêmes tellement compliquée et difficile, avec toutes sortes de questions. C'est quoi cette vache? C'est quoi la couleur? Hein? Quelle sorte de vache? Et ainsi de suite. Alors, l'affaire est devenue tellement difficile et tellement dure, parce qu'ils ont trop compliqué la question, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala les a punis en rendant l'affaire plus dure pour eux encore. Et si tu regardes le judaïsme, eh bien c'est ça ce que tu constates en fait. Tu constates que c'est une religion difficile et très dure, que les juifs eux-mêmes ont une très grande difficulté à mettre en application et à pratiquer. Même que je dirais plus que ça, c'est une religion que s'ils voulaient l'appliquer à la lettre, eh bien ils ne seraient pas capables, ce serait impossible de le faire. Et même que ceux aujourd'hui qui sont plus stricts dans l'application, eh ben tu vois comment leur vie est très difficile. Et dans des choses les plus élémentaires et les plus banales, j'ai vu des juifs dans le quartier, yani, subhanallah. Si c'est le vendredi par exemple, ben, tu vois qu'ils vont pas allumer la lumière ou éteindre la lumière. Si par exemple ils vivent dans un immeuble, c'est une sonnerie avec de l'électricité, ils peuvent pas utiliser l'électricité le jour du sabbat. Donc ils sont obligés de, Yani, subhanallah, je trouvais, quand je rentrais chez, dans l'immeuble de chez moi, yani, subhanallah, chaque vendredi, la serrure était brisée. Parce qu'ils brisent la serrure pour ne pas sonner. Donc, ils veulent rentrer dans l'immeuble sans avoir à sonner le truc, en tout cas. Subhanallah, je dis, mais c'est quoi ça? Ajib. Hein? Donc, il y a toutes sortes d'autres choses comme ça. Ça, c'est juste un exemple. Mais c'est pour dire la religion pour eux, elle est difficile. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en Isa alayhi salam. Ils n'ont pas cru en Isa qui est venu pour leur rendre la religion plus facile. Eux, ils ont refusé son message. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était le dernier des messagers, et ils ont refusé de croire en lui aussi. Donc, s'ils avaient accepté de croire en Isa alayhi salam et de croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils auraient compris que la religion, elle est facile, elle est simple à pratiquer. Hein? Et que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas rendu la religion compliquée et dure comme eux ils se l'imaginent. Mais étant donné qu'ils ont refusé de croire à tous les messagers que Allah leur a envoyés, en rejetant Isa alayhi salam et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et en refusant de croire en Al-Injil, et en refusant de croire en le Coran, eh bien la religion est restée pour eux impraticable. Et c'est pas maintenant, ça fait des siècles que c'est comme ça pour les juifs. Et c'est pour ça qu'ils sont habitués à vivre comme, avec une religion comme ça qu'ils ne sont pas capables d'appliquer. Ils ne sont pas capables d'appliquer. Je pense, j'ai oublié le nombre de, je pense qu'il y a 613 lois, ou je sais pas combien de lois. En tout cas, ils ont un nombre de lois, mais combien de ces lois-là ils peuvent appliquer, la plupart? Hein? Ils peuvent pas. Premièrement parce que en tout cas, il y a plein d'autres choses. Ils prétendent qu'il faut qu'ils aient le Messie ou je sais pas quoi qu'ils attendent pour qu'ils soient capables de l'avoir, de l'appliquer pour soi-disant reconstruire le temple de Salomon, hein, parce que le temple est détruit. Ils sont pas capables d'appliquer leur religion sans le temple. Donc c'est plein de choses comme ça, tu dis, mais comment une religion peut rester comme ça pendant 1000 ans, 2000 ans, hein, alors qu'ils ne sont pas capables de l'appliquer? Alors que, c'est la preuve que c'est une religion, Allah ne l'avait pas révélée pour qu'elle soit pour toutes les époques et pour tous les peuples, contrairement à l'islam. Hein. Allah al-Musta'an. Ensuite, donc l'histoire de la vache, ça c'est connu. Ils devaient sacrifier la vache, comme on l'a expliqué dans les cours précédents. Puis, ils ont posé trop de questions. Allah les a punis en rendant l'affaire plus difficile pour eux. S'ils avaient accepté depuis le début d'obéir et de sacrifier la vache, eh bien, l'affaire aurait été très facile. Hein? L'affaire aurait été très facile, mais ils ont refusé. Donc, c'est-à-dire s'ils auraient obéi du premier coup, ils auraient sacrifié la première vache, n'importe quelle. Allah n'avait pas spécifié une vache en particulier. Ils pouvaient égorger n'importe quelle vache. Mais ils ont préféré poser plein de questions. Hein? Quelle vache? Est-ce que c'est une petite? Est-ce que c'est une vache qui fait ça? Est-ce que c'est une vache qui est de telle couleur? Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu l'affaire plus dure. Et à la fin, Yanni ne voulait presque pas le faire. Quand c'était le temps de le faire, il ne voulait presque plus le faire. Après le cheikh, il dit, « Wa qawluhu wa fi riwayati ibn Dassa annahu dakhala huwa wa abuhu ala Anas ibn Malik bil Madina ibn Dassa وأبوه دخل على أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر لهم صلاة أمير المدينة عمر بن عبد العزيز وهذا الذي يلحق بالخلفاء الراشدين لعدله واستقامته وعلمه وزهده وورعه وخوفه من الله ومع ذلك كان معتدلا مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصلى بهم أنس صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر، فسألوه أهذه نافلة أم هي الفريضة؟ قال إنها الفريضة، وإنها صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا يشق على أمته ويخفف الصلاة مع الإتمام، فيتم ركوعها وسجودها ويراعي حال المأمومين فيخفف الصلاة لأن لا يشق عليهم. Donc le cheikh il dit dans la narration par la suite, Ibn Taymiyyah dit dans la narration de Ibn Das qu'il est rentré lui ainsi que son père chez Anas ibn Malik à Médine. Ibn Das et son père sont rentrés chez Anas ibn Malik, qui était le servant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils lui ont mentionné la salat de l'amir de Médine, Omar ibn Abdul Aziz. Et c'est un parmi les dirigeants qu'on compare, ou qu'on, pas qu'on compare, mais je veux dire, certains parmi les gens disent par rapport à Omar ibn Abdul Aziz que dans sa justice, dans sa droiture, dans sa science, dans sa piété, dans sa crainte d'Allah, il ressemblait au Khulafa al-Rashidi. Ok, malgré qu'il est venu plus tard dans l'histoire. Alors, certains le comparent à cela, au Khulafa al-Rashidi. Et malgré ça, donc, quand il priait, donc, il priait une prière qui était modérée et qui ressemblait à la prière du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Anas ibn Malik a prié avec eux et il leur a fait une prière très légère. Et la prière qu'il leur a faite, c'est une prière légère. Ils lui ont demandé, est-ce que c'est une prière surérogatoire que tu fais ou bien une prière obligatoire? Il a dit, c'est la prière obligatoire. Mais c'est la prière qui est telle que la faisait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne rendait pas la religion difficile pour sa ummah. Et il allégeait la salat tout en la gardant parfaite. Donc il faisait son recours, son sujoud parfaitement, correctement, et donnait à chaque position son temps, mais il la faisait tout de même légère, pas trop dure pour les gens derrière lui. Il prenait considération de l'état des gens qui étaient derrière lui. Et il allégeait donc la salat pour que ce soit pas trop dur pour les gens. Parce qu'il y a des musulmans qui, lorsqu'ils sont imams, ils font la prière très très longue. Et eux, ils disent, ben, mashallah, ça c'est un signe de piété parce que on prie une prière longue et on récite des longs versets, des longues sourates. Donc, on veut montrer en même temps que on aime la salat et qu'on aime la faire avec des longs versets et ainsi de suite. Sauf que il faut aussi tenir compte de la réalité des autres. C'est pas juste toi, tu te sens bien, tu te sens, t'as envie de faire une prière longue et de réciter des longs versets, mais par contre, il y a des gens derrière toi peut-être qui sont âgés, d'autres qui sont malades, d'autres qui sont fatigués, d'autres qui sont pressés, qui ont des rendez-vous ou qui ont des choses à aller faire, d'autres qui travaillent. Toi, tu penses seulement à ta personne et à ta situation. Ben, c'est pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Il nous a enseigné de faire la salat de façon modérée et de prendre en considération les gens qui sont derrière nous et de pas faire la prière trop longue pour que les gens qui sont derrière nous, ce soit trop dur pour eux. Donc, alhamdulillah. Le cheikh il dit, qawluhu wa qawluhu, ala tarkab wa nanzur lina'tabir. وحاصل ما في هذه القصة أن القوم ركبوا وذهبوا إلى بلدة هالكة قد فنى أهلها وخوت على عروشها فسأل صاحبه عنها هل تعرفها؟ قال أعرفها وأعرف أهلها وذكر أنهم عصوا الله عز وجل وخالفوا أوامره فدمرها الله عليهم وهذا يذكر من باب العبرة والاتعاظ بأحوال السابقين والله جل وعلا أمرنا أن نعتبر بأحوال السابقين المخالفين من أجل أن نجتنب ما فعلوه لئلا يحل بنا ما حل بهم لشيخ يلزي كأنسيت Ibn Taymiyyah, donc dans la citation qu'il a mentionnée dans la narration en question, c'est dit qu'ils sont montés sur la monture pour aller méditer sur une ville dont les habitants sont tous morts, ils ont tous péri. C'est une ville où il ne reste plus personne, que des demeures vides. Alors, la personne a demandé, est-ce que tu connais cette ville ? Il a dit, je la connais. J'avais dit, au début, j'avais traduit comme en disant qu'il ne la connaissait pas. Finalement, c'était qu'il, en fait, il disait qu'il la connaissait. Non. C'est ça, parce qu'il dit, ma arafani biha wa bi ahliha. Donc, j'avais mal compris, supposément que c'était le contraire. Il la connaît, il connaît ses habitants, et il a mentionné que ce sont des gens qui avaient désobéi à Allah et qui ont contredit ses ordres. Alors, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits, les a fait tous périr. Et il a tout détruit, cette ville. Et il dit qu'il a mentionné ça dans le but de la réflexion et de prendre des leçons de qu'est-ce qui est arrivé à des gens qui nous ont précédés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de méditer sur la situation et l'état de ceux qui nous ont précédés parmi les gens qui ont contredit les ordres d'Allah dans le but de s'écarter de ce qu'ils ont fait, de ne pas les suivre. Et pour que on ne reçoive pas non plus le même traitement que le traitement qu'ils ont reçu et le châtiment qu'ils ont reçu. Et moi, quand je vois maintenant à l'époque qu'on vit, les choses que les jeunes font maintenant, subhanallah, je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont devenir vieux. Subhanallah, j'étais en train de penser à ça, tu vois maintenant les gens qui se font faire des tatous partout, puis des piercings et tout. Imagine quand ils vont avoir 70, 80 ans, ou comment, de quoi ils vont avoir l'air, ces gens-là, hein? Même des gens, ils ont des trucs dans la langue même. Tu les vois à 80 ans comme ça avec un trou dans la langue. Et ça va être laid, Allah le musta'an, encore plus laid que c'est maintenant. Mais les gens, ils réfléchissent pas, ils pensent pas qu'un jour ils vont être vieux. Ils pensent juste au moment présent. Peut-être que ces gens-là même, Allahu a'lam, ils vont se suicider avant, quand ils vont voir qu'ils deviennent vieux. Surtout les jeunes, cette génération-là. Allah le musta'an. Quand ils vont commencer à être vieux, ils vont commencer à dire « Ah, ça sert à rien de vivre. » Ils vont se suicider comme ça. A'udhubillah. Mais ça, c'est le résultat du kufr. Yani, a'udhubillah, c'est vrai. Mais c'est vrai, regarde maintenant les vieux maintenant. Les vieux de notre génération dans les pays de kufr. C'était des jeunes dans les années 50, 60. Regarde les bêtises qu'ils faisaient. Et regarde maintenant aujourd'hui comment ils sont. Donc c'est pour ça, tandis que tu vas aller dans les pays musulmans, tu vois les personnes âgées, tu vois les musulmans. Je me rappelle, j'étais à Médine, je regardais les personnes âgées, les musulmans avec la barbe blanche, et tu vois la sagesse, tu vois la sagesse, la science, des fois ils sont pas nécessairement des savants, mais au moins tu sens qu'il y a une piété, qu'il y a quelque chose, tu vois. Allah les a préservés dans leur apparence, dans leur personne, à cause de leur piété. Mais quand tu vois les gens comme ça ici, quand ils deviennent vieux, auzubillah, donc c'est comme si pour eux c'est vraiment terrible, c'est comme un châtiment. Nasallallahu al-afiya. Après le cheikh il dit: فالمقصود من النظر في آثار السابقين العظة والعبرة وليس كما يفعل البعض لأجل تعظيمهم والافتخار بحضارتهم، ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يدخل في هذه أن لا يدخل هذه الديار إلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون باكيا خشية أن يصيبه ما أصابهم. Donc le cheikh il dit que le but de tout ça, c'est, si on va aller dans ces endroits-là où Allah a fait périr des peuples, c'est pour réfléchir sur les actions de ces gens-là qui nous ont précédés, et pour prendre des leçons, et des leçons et des pour dire bon, il faut pas faire comme eux, il faut pas suivre leur exemple. Tu prends une leçon de qu'est-ce qui leur est arrivé. Parce que si tu fais comme eux, tu vas avoir le même sort que eux. Donc c'est pas comme certaines personnes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des endroits où des peuples ont été châtiés, ont été détruits, et puis ils s'en vont visiter ça avec fierté, comme si c'était une sorte de fierté de leur civilisation. Regardez qu'est-ce qu'ils ont construit, regardez leur architecture, regardez ça. A'udhu billah, c'est des gens qui ont été punis par Allah pour leur kufr et leur shirk et leur péché et leur désobéissance à Allah. Et vous en faites quelque chose de fierté, Donc ça, c'est pas correct. C'est contraire à la religion de l'islam de faire ça. C'est contraire à la religion d'Allah. Si vous allez à ces endroits-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, n'y entrez pas, excepté que vous êtes en train de pleurer, par crainte d'être frappé de la même chose que qu'est-ce qui les a frappés eux. Mais eux, ils réfléchissent pas à ça. Allah musta'an, ils réfléchissent pas à ça. Ils réfléchissent pas à dire, mais regardez. Regardez, il y a une sourate dans sourate Ad-Dukhan, des versets que j'aime beaucoup, dans sourate Ad-Dukhan, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit: kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim. Naam, c'est quoi? C'est ça. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء وما كانوا منظرين. Qu'est-ce que ça veut dire? Que de jardins et de sources ils laissèrent derrière eux, que de champs et de superbes résidences, que de délices au sein desquels ils se réjouissaient. Il en fut ainsi, et nous fûmes qu'un autre peuple en hérita. Ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent, et ils n'eurent aucun délai. Donc c'est pour dire, surat Ad-Dukhan, quelle aïe, laisse-moi vérifier, c'est les versets 25 à 29, sourate Ad-Dukhan. Donc c'est pour dire qu'est-ce qu'ils avaient, comment ils vivaient, Et qu'est-ce qui leur est arrivé à cause de leur kufr, de leur shirk, de leur péché, de leur éloignement d'Allah et de leur rejet des messagers? Comment Allah les a châtiés? Ça peut arriver à nous aujourd'hui. Ce n'est pas des choses qui sont finies. On dit, ah non, ça, ça arrivait à des peuples avant, quand les gens faisaient des péchés à l'époque des prophètes. Maintenant, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Ça continue encore. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'enverra plus de messagers, mais il peut quand même châtier des hommes qui désobéissent à ses ordres. Hein? On voit toutes les... chaque année, il y a des catastrophes, comme ils appellent, et des tremblements de terre, et des inondations, et des tsunamis, hein? Et des tornades. Tout ça, c'est quoi? C'est n'importe quoi pour eux. Hein? Ils pensent que c'est des trucs, des catastrophes naturelles, comme ils les appellent. Mais ça, c'est des châtiments d'Allah. Mais ils sont aveugles parce qu'ils ont été aveuglés par le kufr. Allah musta'an. Ensuite, le cheikh il dit: فَلَقَدْ ذَكَرَ الرَّاوِي. J'ai perdu l'heure en fait parce que l'enregistrement était coupé, donc. Non, c'est pas qu'il était rempli, j'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès. Mais dans le sens que je vais juste vérifier à quelle heure on a commencé, vers 5h30. Il est quelle heure maintenant? 6h30. Ok, on va finir bientôt. Inch'Allah. Non. Donc c'est juste pour voir combien de temps depuis combien de temps on a commencé. Le maghrib c'est à 7h. Donc on a le adhan, c'est à 48. Non. Donc oui. Où est-ce qu'on était? Oui. Le cheikh il dit: فَلَقَدْ ذَكَرَ الرَّاوِي أَنَّهُمْ أَهْلُ حَسَدٍ وَأَنَّ الْحَسَدْ حَمَلَهُمْ عَلَى الْبَغِي وَالْحَسَدْ هُوَ تمني زوال النعمة عن المحسود وهي صفة إبليس حينما حسد آدم عليه السلام وهي صفة اليهود حينما حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته وصفة أحد بني آدم لما قتل أخاه بسبب الحسد فالحسد حمل إبليس على أن بغى وتكبر عن أمر الله فالحسد مرض عضال يحمل صاحبه على البغي والتعدي على دماء الناس وأموالهم وأبدانهم وأعراضهم والبغي مرتعه وخيم والعياذ بالله. Donc le cheikh explique que le narrateur mentionne que c'était des gens de jalousie, des gens qui avaient de la jalousie, et que c'est ce peuple qui a été détruit, c'est la jalousie qui les a poussés à la transgression et à l'injustice. Et la jalousie, c'est quoi? La définition, c'est de souhaiter que celui qui a une grâce, tu souhaites que cette grâce-là lui soit enlevée. Et ça, c'est une des caractéristiques du diable, Iblis, lorsqu'il a été jaloux de Adam, alayhi salam. C'est également une caractéristique des juifs, lorsqu'ils ont été jaloux de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de sa nation. Et c'est une caractéristique d'un des deux fils de Adam, qui a tué son frère, à cause de la jalousie. Donc la jalousie, ça a amené Iblis à transgresser et à s'enfler d'orgueil face à l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc la jalousie, c'est une maladie grave. Une maladie, comme on dit, qui tue. C'est une maladie qui tue. Et ça peut amener la personne qui en souffre à être injuste et à faire de la transgression contre les autres, et à même faire couler leur sang et à prendre leur bien et à agresser à faire des agressions contre leur corps et contre leur honneur et à transgresser. Donc, tout ça, c'est pour dire que c'est des choses très graves. Hein? Voilà, ayyadu billah. Donc, le cheikh, il dit, وقوله والعين تزني والكف العين زناها النظر والكف يزني باللمس وللشهوة باللمس للشهوة فالأعضاء تزني بمعنى أنها تفعل شيئا من أسباب الزنا ثم هذا يجرها إلى الوقوع في الفاحشة فإن النظر سهم من سهام إبليس وكذا كل معصية تجر إلى الفاحشة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc l'œil commet l'adultère, la main commet l'adultère, et l'adultère de l'œil c'est le regard, l'adultère de la main c'est le toucher avec passion et désir. Donc les membres du corps commettent l'adultère dans le sens qu'elles font une chose qui va être une cause qui va te faire tomber dans l'adultère. Et ça, c'est yani, qu'est-ce qui va amener à tomber dans le zina et dans la turpitude. Parce que le regard, c'est une des flèches parmi les flèches du diable. Yani, les koufars, tu les vois par exemple qui se moquent des croyants. Ils se moquent des croyantes parce que les croyantes, elles se voilent, elles couvrent leur corps, elles couvrent leur visage, elles couvrent leurs mains devant les hommes. Et eux, ils s'indignent de ça, hein, hypocritement, parce qu'ils savent très bien que dans leur cœur, il y a toutes sortes de désirs et de passions et de maladies. Et ils font le zina avec leurs yeux, avec leurs mains, avec leurs, hein, avec leurs pieds, avec leurs oreilles. Ils font pas, peut-être, ils font pas, ils font le zina aussi avec leur partie intime, le vrai zina. Mais avant de le faire, ils font avec toutes les causes qui les amènent à tomber dans le zina. Il y a des musulmans aussi qui tombent là-dedans. Mais ceux qui s'accrochent à l'islam et qui essaient de pratiquer la religion, ils essaient de se préserver de ça. Le plus étonnant parfois, c'est de voir que des femmes et des hommes qui pratiquent l'islam, des femmes qui portent le djilbab, qui portent le niqab, qui se couvrent le visage, qui portent des gants, et des hommes qui portent la barbe et le kamis, et qui font le zina. A'udhu billah. Et j'ai entendu des histoires comme ça. Yani, subhanallah. Comment certaines personnes facilement comme ça, ils tombent dans ce genre de choses. Tu dis, mais comment? Ce sont des gens qui disent qu'ils sont salafis, sur la voie des salafs, et qu'ils s'habillent d'une apparence qui montre qu'ils s'accrochent à la sunna, et puis ils tombent dans le zina. J'ai entendu des choses comme ça, j'étais vraiment choqué et surpris d'entendre ça. Pourquoi ces choses-là se produisent? C'est parce que les gens ne se préservent pas. Surtout avec les nouveaux moyens de communication et de connexion, hein, avec les téléphones, avec Internet, avec email, avec Skype, avec ça. Des hommes qui communiquent avec des femmes qui communiquent avec des hommes. Normal, comme si rien n'était. Soi-disant, il cherche une femme, il utilise ses moyens comme ça. Et ça ouvre la porte à la fitna, et ça fait tomber dans le zina. Et à la base, hein, il s'imaginait être préservé, et puis le shaitan, il leur a joué des tours, et puis c'est ça ce qui arrive par la suite. Voilà le résultat. Allah musta'an. Donc, le regard, c'est une flèche parmi les flèches de Iblis. C'est comme celui que les koufars appellent Cupidon, là, hein? Quand c'est la fête de Saint-Valentin, hein? C'est ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un bonhomme avec une flèche, là. Ça, c'est Shaitan. pour de vrai. Eux, ils réalisent pas ça. Shaitan, il lance la flèche, et puis toi, tu vois quelque chose qui est haram, tu regardes, la flèche rentre dans ton cœur, ça y est, t'es fini. C'est pas un bonhomme, hein, comme des petits bébés avec les ailes. Hein, ils disent c'est Cupidon. C'est Iblis. Et ça, là, cette flèche, elle est rentrée par tes yeux parce que tu as regardé qu'est-ce qui n'était pas permis. Hein? Donc, le cheikh, il dit, wa kullu, hein, kaza kullu ma'siyatin tajurru ila al-fahisha, katabarruj an-nisa, wa mukhalatat an-nisa lir-rijal, was-sufur, wa 'adam al-hijab, hein, wa safar al-mar'a wahdaha, wa khalwatuha ma'a ar-rijal. كل هذه وسائل للزنا والشرع جاء بسد الوسائل المفيدة إلى المحاذير فالواجب على المسلم أن يتجنب الأسباب التي تؤدي إلى المحاذير احتياطا لدينه وخوفا من الوقوع فيما لا يحل. Donc le cheikh il dit de même que tous les péchés qui amènent à la turpitude, au zina, comme le fait que les femmes exhibent leurs atours, hein, elles marchent dans la rue, elles montrent les contours de leur forme, de leur corps, hein, leur postérieur, leur derrière, leur poitrine, hein, les différentes courbes de leur corps, tout ça c'est des choses qu'elles doivent cacher et couvrir avec des vêtements amples. C'est pas juste un foulard sur la tête comme certaines femmes s'imaginent, et le shaitan leur a embelli « at-tabarruj islamique », soi-disant, hein, l'exhibitionnisme islamique. C'est-à-dire, la femme elle porte un foulard sur sa tête, mais toutes les formes, hein, de son corps, les différentes parties qui sont les plus attirantes pour l'homme et qui excitent l'homme sexuellement, elle les exhibe sans aucune gêne et sans aucune honte. Et elle porte des vêtements moulants et qui montrent les formes. Hein. Alors, où est-ce qu'elle est la sagesse? Si la femme n'a pas compris qu'est-ce que signifie le hijab, elle est musulmane et elle fait la fitna dans la rue avec un vêtement, hein, qu'elle prétend être islamique, qui n'a rien à voir avec l'islam. Mais pourquoi tu mets ce foulard sur ta tête alors que tout ton corps il sort dehors, on voit toutes les formes? Hein? Tu t'habilles même comme des fois il y a des sœurs, subhanallah, elles s'habillent comme un homme, un pantalon chandail avec un foulard serré sur sa tête, on dirait, hein, elle l'a serré tellement serré sur sa tête, on dirait que ça fait un casque. Mais ça n'a rien à voir avec le hijab, ça c'est une falsification de la charia d'Allah. C'est des différentes façons de déformer la religion d'Allah, la même manière que les juifs ont joué avec leur religion et les chrétiens, hein, ils ont déformé le message de Isa et de Moussa, maintenant ils veulent faire la même chose et déformer le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en inventant dans la religion d'Allah des formes de hijab et des formes d'adoration et de pratiques religieuses qui sont contraires à l'islam, et ils les font au nom de l'islam. Ça c'est grave, subhanallah. Donc il y a ça et il y a aussi le comportement. Tu peux pas dire que tu t'habilles islamiquement puis que après ton comportement il est comme le comportement des femmes kuffar ou les hommes kuffar, la même chose. De même que une femme qui se mélange avec les hommes sans aucune gêne et elle va dans les endroits où sont réunis les hommes, ça c'est pas correct non plus. Hein? De même que les femmes qui se couvrent pas le visage, des fois elles font beaucoup de fitna parce que elles ont un beau visage. Et le plus étrange dans ça, c'est que elles savent que de couvrir les pieds c'est obligatoire. Et elles cachent pas leur visage. Et Cheikh Ibn Uthaymin, il disait, quand tu vas marier une femme, tu vas regarder quoi? Ses pieds ou son visage? Si c'est obligatoire de cacher son visage, de cacher ses pieds, si c'est obligatoire de cacher ses pieds.
Comment ça s'est permis de montrer son visage? Est-ce que pour toi les pieds sont plus importants, plus fitna que le visage? Ça c'est un des arguments rationnels que Cheikh Ibn Uthaymeen il mentionnait pour réfuter ceux qui prétendent que le visage c'est pas obligatoire de le couvrir. Malgré qu'on sait qu'il y a divergence là-dessus. Mais bon, il y a des femmes aussi qui ne portent pas le hijab du tout. C'est encore plus grave comme péché. Mais que Allah les guide, que Allah les amène à se repentir et à avoir la force de pratiquer l'islam. Et surtout à notre époque où les koufars, ils essaient de tout faire ce qui est en leur pouvoir pour éloigner les musulmans et musulmanes de la pratique de l'islam et en particulier du hijab. C'est leur premier ennemi. Et aussi les féministes, que ce soit des féministes des koufars, parmi les koufars, comme les femmes et autres, ces femmes impudiques qui n'ont aucune gêne, et également les femmes féministes soi-disant islamiques, entre guillemets, comme les femmes parmi les Ikhwan, et les hommes comme Tariq Ramadan, qui appellent au féminisme islamique, à falsifier la charia d'Allah pour plaire aux koufars et aux ennemis de l'islam, pour essayer de faire croire aux musulmans et aux non-musulmans que dans l'islam l'homme est égal à la femme dans tout, alors que on sait très bien que c'est faux. Et également le fait de que la femme voyage seule sans un mahram et qu'elle reste dans un endroit clos, isolé avec un homme étranger qu'elle a le droit de marier. Tout ça, Cheikh il dit, c'est des causes vers le zina, des choses qui amènent à tomber dans l'adultère. Et il dit, la législation de l'islam et la charia est venue pour fermer toutes les portes et les chemins vers le péché. Et donc c'est obligatoire pour les musulmans de s'écarter des causes qui amènent vers la désobéissance et le péché pour préserver la religion et par crainte de tomber dans ce qui n'est pas permis. Et il termine par la suite en disant وَقَوْلُهُ فَأَمَّا مَا فِيهِ مِنْ وَصْفِ صَلَاةِ النَّبِي صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ بِالتَّخْفِيفِ كَانَ النَّبِي صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ يُجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكَمِّلُهَا يعني يُخَفِّفُهَا مَعَ إِتْمَامِ أَرْكَانِهَا وَوَاجِبَاتِهَا وَمُسْتَحَبَّاتِهَا فهو يجمع بين المصلحتين الرفق بالمأمومين وإتمام الصلاة ولا يعمل صفة على حساب الصفة الثانية فلا يخفف الصلاة تخفيفا يفضي إلى عدم إتمام الصلاة ولا يطلها إطالة يثقل بها على المأمومين لذلك فإن جماعة من المحدثين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها طويلة حيث أنه يتم الركوع والسجود والقيام مراعاة للصلاة بينما جماعة أخرى وصفوها بالتخفيف فجمع بين الأمرين بأنه فيجمع بين الأمرين بأنه كان يخفف الصلاة مع إتمامها مراعاة للمأمومين. Donc le cheikh il termine en disant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il faisait la prière de façon courte et légère, mais il la faisait de façon parfaite. Il complétait les piliers et les obligations et les choses recommandées de la salat, mais en même temps il tenait compte des gens qui étaient derrière lui. Et par douceur pour ceux qui étaient derrière lui, eh bien, il faisait une prière qui était concise, qui était courte et légère, mais qui était parfaite. Il la faisait pas trop longue et il la faisait pas trop courte non plus. Et c'est pour ça que des fois on mentionne l'exemple des savants de hadith qui mentionnent la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'elle était longue, et dans d'autres ulama qui mentionnaient qu'elle était légère, et quand on réunit les deux ensemble on comprend que sa prière était légère mais qu'il donnait à chaque mouvement et à chaque position son droit. Hein? Mais en même temps, il tenait compte des gens qui étaient derrière lui pendant la prière pour pas que ce soit trop lourd.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله